Bien, bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Gilles Eldon. Je travaille ici à l'IFE, à l'ENS de Lyon, dans l'équipe Eductis. Si j'interviens aujourd'hui, et puis le titre de mon intervention, de la formation à la e-formation, c'est en fait aussi le titre d'une formation de formateurs qui a eu lieu dans l'Académie de Lyon l'année dernière, qui a été construite et qui va être, tout au long de cette communication, un fil rouge, puisque tous les exemples que je vais essayer de prendre, eh bien, ce sont des exemples qui sont tirés de cette formation. Alors, ça c'est sympa. Au départ, pour dire, c'est que je parle sous contrôle, parce que cette formation, j'étais loin de la faire tout seul. Et Ghislaine Buret et Brigitte Narvor, qui sont ici, ont été aussi, toutes les deux, formatrices dans cette formation de formateurs. Alors, j'ai illustré cette page de titre avec deux images qui traitent toutes les deux de la soustraction des opérations et vous voyez à quelques dizaines d'années d'intervalle, on retrouve des choses qui sont à peu près identiques. On voit qu'il y a des opérations posées d'un côté comme de l'autre, mais le support a été modifié. Et c'est un petit peu cette image que je vais essayer de continuer pendant toute l'intervention, c'est d'essayer de voir justement qu'est-ce que le fait de pouvoir modifier ces supports, modifier le médium, va pouvoir changer en termes d'apprentissage et dans le cadre de formation. Alors, pour parler de tout ça, je vais adopter le plan suivant. Et puis, bien entendu, si à un moment donné, vous avez envie d'intervenir parce que ce que je dis n'est pas très clair ou que vous voulez des précisions, n'hésitez pas, interrompez-moi et puis on pourra en discuter. Donc d'abord, évidemment, je vais vous donner le contexte de cette formation de formateurs. Et puis ensuite, les principes sur lesquels nous sommes appuyés pour travailler dans la formation de formateurs, et puis exemplifier en ce sens que qu'est-ce que ça a pu donner pour les collègues qui étaient à un moment donné stagiaires et qui étaient en train de construire des formations. Et puis je terminerai par un travail qui est en cours, c'est un travail de recherche en cours, donc je vous le présenterai tel qu'il est, vers un essai de théorisation de ce que peut être une formation d'enseignant, et justement avec ce que disait tout à l'heure Patrick, les différents regards, à la fois les regards de la recherche, des formateurs, et puis des enseignants de terrain, et comment ces choses-là peuvent s'articuler, ces acteurs-là peuvent s'articuler ensemble et essayer de donner un cadre théorique qui permet de penser les formations de formateurs. Donc voilà le plan de cette intervention. Alors, contexte, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait d'une formation de formateurs, une formation de formateurs qui a débouché sur une inscription au plan académique de formation d'un IPAF, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de stages qui, dans l'Académie de Lyon, cette année, ont été proposés aux enseignants et qui sont des stages hybrides. Alors, stages aussi bien dans le second degré, dans les lycées professionnels et également dans le premier degré, même si ça n'apparaît pas, évidemment, dans le IPAF à cet endroit-là. Donc, c'était au départ une demande institutionnelle, une demande de la DAFOP, de l'Académie de Lyon, qui avait une volonté de donner une plus-value au stage de formation. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de la plus-value qui pouvait être apportée par les stages hybrides. Eh bien voilà, il y avait cette idée. Les stages de formation sont trop ponctuel, il y a deux interventions ou deux jours d'intervention. Est-ce qu'il est possible, à travers l'hybridation, et je reviendrai bien sûr sur ce que nous avons entendu par hybridation, est-ce qu'il est possible de donner à ces stages de formation un contenu un petit peu plus intéressant, un suivi des formateurs et quelque chose qui tirerait plus sur la formation que de l'information. Et puis, l'idée, c'était non pas de reconstruire quelque chose du tout au tout, mais de partir de stages existants, c'est-à-dire partir avec des collègues qui étaient déjà formateurs et qui avaient déjà l'habitude de faire des formations d'enseignants et prendre les stages qu'ils avaient l'habitude de conduire et essayer de les transformer en rajoutant cette dimension d'hybridation et rajoutant une dimension à distance. Alors, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est effectivement une équipe plurielle qui a été en charge de cette formation de formateurs, des formateurs de l'Académie, Gislaine Buret qui est ici, de l'IUFM, Brigitte Narvor, et puis des chercheurs qui travaillent à l'IFE ou à l'ENS, Christine Develotte, donc qui est en langue à l'ENS ici, Sophie Souris-Lavergne qui travaille avec moi dans l'équipe Eductis et moi-même. Donc voilà, il y avait aussi, et c'était aussi un intérêt, il y avait des points de vue différents qui s'exprimaient dans la conception de cette formation. Alors, les principes généraux sur lesquels on est parti, ce sont un certain nombre de principes qui sont liés au fait que dans une formation de formateurs, on avait un petit peu d'avance sur les collègues qui étaient en train de travailler, mais pas tant que ça quand même. Alors l'avance qu'on avait pu avoir, c'était parce qu'on avait des expériences de travail de formation hybride ou de travail avec des étudiants dans le cadre de master qui étaient à distance ou éventuellement aussi des travaux qui avaient été faits au niveau européen dans des projets européens sur l'enseignement, sur la formation pardon des enseignants. Mais on a souhaité, puisque les collègues étaient volontaires pour venir travailler avec nous, de rentrer dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire qu'on était avec les collègues sur le terrain et puis chacun apportait ses compétences particulières. Et évidemment, tout cet apport, on a essayé de faire qu'il y ait un accompagnement le plus serré possible, de façon à ce qu'on puisse suivre à la fois la conception de la formation et puis, et c'est en cours, essayer de suivre aussi la mise en place de la formation hybride, c'est-à-dire pas s'arrêter au moment de la conception et puis s'arrêter complètement. Et donc ça, évidemment, c'est un travail qui est en cours puisque les formations n'ont pas encore commencé. Elles ont été conçues durant l'année dernière. Elles sont présentées au plan de formation académique et puis elles seront développées durant cette année. Et puis le troisième principe sur lequel qui est pour nous qui a été pour nous très très important, c'est un principe d'isomorphisme, c'est-à-dire que on a essayé de faire vivre aux formateurs stagiaires des choses, une session de formation dont ils pourraient récupérer les éléments pour construire leur propre session de formation. Donc avoir à peu près des formes identiques, c'est-à-dire que la formation, les parcours de formation ont été construits sur une plateforme qui est la plateforme Performance, j'en dis deux mots après. Nous avons construit un parcours de formation sur cette plateforme de façon à être dans les mêmes conditions que les stagiaires formateurs. Alors, évidemment, tout ça pose des problèmes Et ces problèmes-là, il faut arriver à les résoudre, qui sont des problèmes d'ordre institutionnel, mais je pense que n'importe quel type de formation, à un moment donné, est une formation à l'intérieur d'une certaine institution. Et donc, les problèmes institutionnels sont évidemment des problèmes à prendre en compte à tout moment. Et puis, des problèmes techniques, puisque nous avons utilisé une plateforme particulière, la plateforme Performance, qui est une plateforme Moodle, avec toutes ces lourdeurs, ces difficultés et ces possibilités et ces potentialités. Donc il y a des contraintes et il faut rentrer à l'intérieur de ces contraintes. Alors, les principes pour la formation hybride, alors ce sont des choses qui sont assez générales, mais que je vais ensuite essayer d'exemplifier et de montrer un petit peu comment, en fait, on a essayé de s'appuyer sur ces principes pour la construction de cette formation. Alors, premier principe qui nous paraissait tout à fait fondamental, c'était la possibilité de donner la possibilité aux stagiaires de collaborer entre eux, de collaborer entre pairs. Alors, j'ai mis dans le titre « Performance », entre parenthèses, magistère, point d'interrogation, des principes pour la formation hybride. Je parle d'expérience de performance. J'espère que ces principes qui sont là vont pouvoir se mettre en place aussi facilement ou aussi simplement. Alors, Ghislaine fait oui de la tête. donc je lui fais confiance, mais pour le moment, je n'ai pas d'expérience du tout sur magistère pour ne pas jamais avoir vu en vrai la plateforme. Alors, je fais l'hypothèse que ce que je raconte et l'expérience qu'on a pu avoir sur performance, eh bien, c'est quelque chose qui va pouvoir être transposé d'une façon pas trop difficile sur la plateforme magistère. Donc, premier principe vraiment important, la collaboration entre pairs. Alors, nous travaillons dans une formation de formateurs. Donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a différents rôles. Et donc, les pairs, c'est à la fois le travail entre les formateurs, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire amener chacun sa spécificité et sa propre vision des choses. Et puis, le travail entre pairs, c'est-à-dire un travail horizontal entre les enseignants qui sont finalement stagiaires à un moment donné. Le deuxième principe aussi qui est très fort, c'est que dans une formation hybride, il y a un travail de conception de ressources, de test de ces ressources et de retour réflexif sur ces ressources, c'est-à-dire un lien avec ce qui va se passer effectivement en situation. Alors, c'est pour ça que je vous disais que nous, dans la formation de formateurs, ce qu'on essayera de faire cette année, dans la mesure où on le pourra, c'est d'avoir un suivi de la formation, c'est-à-dire voir comment ces formations qui ont été conçues dans le cadre de cette formation de formateurs peuvent se mettre en place en réalité comme formation et avoir des retours de façon à pouvoir à la fois améliorer les formations et améliorer les formations de formateurs. Et puis le troisième principe, c'est le principe de l'hybridation. Et alors effectivement, le principe de l'hybridation, c'est pas simplement le principe, je pense que ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui est important et sur lequel il faut insister. C'est pas simplement le principe d'hybridation entre présence et à distance, bien que effectivement ce soit un principe important, mais c'est aussi l'hybridation de la formation entre un travail collectif et un travail individuel et l'organisation des relations entre le travail individuel et le travail collectif. Et puis, une hybridation qui porte aussi sur le travail qui peut être fait à l'intérieur de la classe ou de la formation, si on travaille dans le cadre d'une formation, et puis en dehors de la classe. Et donc, ces trois aspects, à mon avis, sont des aspects qui sont importants, voire fondamentaux, pour décrire l'hybridation d'une formation. Alors, Alors, je vous disais qu'il y avait des contraintes, et en particulier qu'on travaillait sur la plateforme performance. Donc, sur la plateforme performance, il y a quelque chose qui me paraît être vraiment important à distinguer. C'est, d'une part, le parcours, et puis, d'autre part, la formation. Donc, le parcours, si vous voulez, c'est ce qui va être inscrit sur la plateforme pour aider au partage, pour organiser la formation, pour décrire le déroulement, pour organiser les interactions entre les acteurs, etc. Donc ça, c'est ce qui va être inscrit et ce qui doit être explicité d'une façon très, très importante. Et puis, d'un autre côté, il y a la formation. Et si je parle en termes d'informaticien, ce serait l'implémentation du parcours dans une relation avec des stagiaires. Donc c'est cette session qui est mise en œuvre dans le temps avec des stagiaires. Alors c'est important dans la conception de parcours performance et je pense parcours magistère par la suite, parce que à un moment donné, à partir du moment où le parcours a été conçu, a été placé sur la plateforme, c'est-à-dire que le parcours est effectif, eh bien, il est possible que les formateurs qui vont travailler sur ce parcours ne soient pas les concepteurs du parcours. Et par conséquent, il va falloir, à l'intérieur de ce parcours, donner une explicitation la plus précise possible de tout ce qui pourra être fait, et en particulier dans la formation. Alors, c'est quelque chose qui, parfois, est difficile. On reviendra encore une fois sur cet aspect. Alors, d'autres choses, autre lien qui est lié un petit peu à ça, dans un parcours de formation et dans une formation, il y a des rôles et des positions et des niveaux qui sont des niveaux différents. Alors, quand on est dans une formation en présence, eh bien, c'est assez évident. Il y a un formateur et puis ou des formateurs et puis des stagiaires et puis on voit bien qui est qui à quel moment. Mais quand il s'agit de le décrire sur le parcours, et alors lorsqu'on travaille sur une formation de formateurs, eh bien on arrive à des choses qui sont compliquées. Alors voyez sur le schéma qui est ici, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du formateur et du concepteur et puis le niveau des apprenants. Et la première bulle sur la gauche, ce serait la bulle de la formation de formateurs. Donc il y a des formateurs qui sont aussi concepteurs à un moment donné d'un parcours de formation et qui animent une formation, qui travaillent avec des formateurs stagiaires qui, dans un deuxième temps, vont être les formateurs d'enseignants stagiaires et ces enseignants stagiaires vont être, dans un troisième temps, les enseignants des élèves. Et donc, c'est, en fait, dans la formation de formateurs ou dans la formation, et c'est toute cette chaîne qui est à regarder et le rôle, la position et la distinction entre les acteurs est à mon avis assez primordial, simplement pour savoir qui parle et à quel niveau. Juste pour prendre un exemple, c'est un exemple qui est tiré d'un travail de recherche, qui était de prendre un exercice de mathématiques je l'ai pas dit au départ, mais je suis didacticien des mathématiques, donc c'est pour ça que souvent les exemples que je vais prendre vont être un peu tirés vers les maths. Bon, donc cet exemple là, c'est un exercice qui peut être très très simple. C'est entre 2/3 et 201 sur 301, quel est le plus grand? Entre les deux fractions, 2/3 et 201 sur 301, quelle est la plus grande des deux fractions? Alors, on peut regarder cet exercice au niveau de la bulle de droite, c'est-à-dire que on a des enseignants qui ont des objectifs d'apprentissage et qui vont proposer à des élèves cette situation. Donc, avec un certain objectif d'apprentissage sur les nombres, sur les fractions. Mais on peut regarder aussi cette même situation au niveau de la formation au niveau d'une formation, c'est-à-dire quels objectifs on pourrait assigner en termes de formation pas en termes d'apprentissage cette fois-ci, à cette situation-là. Et essayer de regarder quels sont donc, dans cet exemple particulier, quels sont donc les objectifs qu'on pourrait assigner cet exemple-là. C'est-à-dire essayer de réfléchir non plus à l'exemple du classement de deux fractions pour des élèves, mais essayer de réfléchir à cette situation pour la formation, comment elle pourrait être utilisée. Et en particulier, quelle stratégie pourrait être mise en œuvre pour arriver à faire comprendre des choses qui sont compliquées pour des enfants, ou qui deviennent très rapidement techniques parce qu'il y a une méthode technique, on va faire un produit en croix et puis on va arriver à trouver un résultat. Mais ça devient de l'automatisme, si je peux exprimer de cette façon-là, sans avoir véritablement de sens. Et donc, arriver à travailler sur cet exemple pour montrer que, par exemple, il est possible d'illustrer cette ordonnancement de deux fractions avec des scores de sport. Et par exemple, si on a gagné 200 fois sur 300 et puis qu'on va gagner 201 fois sur 301, ben, on voit tout de suite que le ratio a augmenté puisqu'on a gagné une fois de plus. Donc en gagnant une fois de plus dans un sport quelconque, l'exemple initial était pris sur des scores de baseball, mais ne me demandez pas d'expliquer comment ça fonctionne en baseball, mais 200 sur 300, je tente un nouvel essai, 201 sur 301, j'ai donc augmenté mon score puisque j'ai réussi ce nouvel essai. Et donc travailler sur cet aspect-là, qui est un aspect non plus directement lié à la classe, mais qui va pouvoir être utilisé dans la classe pour arriver à faire comprendre le classement de différentes fractions, va être transposé au niveau de la deuxième bulle ici. Bon, voilà, c'était juste un exemple, mais qui me paraît être assez intéressant pour illustrer ces choses-là. Alors, donc, pour penser la conception de parcours, ben, il y a un certain nombre de conceptions, de questions d'ingénierie qui se posent, et notamment, si je suis les principes que j'ai énoncés précédemment, il y a une nécessité de penser l'articulation entre différents aspects, et effectivement, les aspects qui ont été présentés tout à l'heure par Patrick, donc les ressources, quel type de ressources. Quelle va être l'activité du formé à un moment donné en face de ces ressources, hein. Prenons l'exemple, on met sur une plateforme un texte, donc il y a un lien, on clique, il y a un PDF qui s'ouvre. Bon, on peut imaginer que s'il y a un texte qui s'ouvre, ça veut dire qu'il faut le lire. Mais qu'est-ce qu'on en fait, effectivement, dans la formation? Pourquoi on met ce texte à ce niveau-là? Pourquoi on le met? Et quelle va être l'activité, à part le fait de lire? Ce qui est assez évident. Quand on est en formation, ben on distribue un texte et puis en même temps on va donner des consignes. On va préciser toutes ces consignes. On va le avancer. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait implicites au niveau de la formation quand on est en présentiel et qui deviennent nécessaires d'expliciter lorsque on a à construire un parcours qui pourra être pris par d'autres formateurs. Donc j'ai mis ici aussi la finalité de l'activité. Alors c'est évidemment des choses qui sont tout à fait importantes, nécessaires, obligatoires pour expliciter d'une façon très précise. Alors ça s'explicite à deux niveaux. Ça s'explicite à la fois au niveau du parcours et ça s'explicite en cours de la formation. Et alors, ce que nous, on a pu observer dans notre formation de formateurs, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour des formateurs experts. Parce que les formateurs experts, eh bien, ils sont experts, et donc ils savent bien que dans telle ou telle situation, ils réagissent de telle façon, mais arriver à expliciter ces façons-là, c'est pas forcément très très simple. Et donc il y a besoin, à un moment donné, eh bien, de rentrer dans les détails, d'avancer un petit peu. Et ça nous amène à regarder un petit peu les différents types de parcours. Alors dans ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de regarder plusieurs types de parcours, alors qui sont des parcours, cette étape, je pense que si vous avez côtoyé performance un jour ou l'autre, eh bien vous avez vu cette étape de performance. Mais je voudrais y revenir parce que il y a à la fois une faiblesse et aussi des choses qui sont très intéressantes au niveau des principes qui sont derrière. D'autres types de parcours qui ont été le résultat du travail qui a été fait dans cette formation de formateurs, et puis aussi qui ont été la formation de formateurs. Je vous ai dit qu'on utilisait un principe d'isomorphisme, donc nous, on a utilisé un type de parcours qui peut être éventuellement repris. Donc les sept étapes, des constructions chronologiques, des entrées par des questions, des entrées par des contenus, puis je terminerai des entrées par le jeu, puisque ça, c'est aussi un des axes de travail de l'équipe Eductis, et donc regarder un petit peu comment ça peut être fait. L'illustration à droite, c'est le parcours en profondeur d'un arbre binaire, et donc ça donne bien un peu cette idée, c'est-à-dire qu'on a des aspects, peut-être des nœuds d'information, et on va se promener à l'intérieur de ces nœuds d'information, aller de l'un à l'autre. Et pour aller de l'un à l'autre, vous voyez qu'ici, on a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité qui est donnée, qui est écrite ici. On commence par en haut, et puis on descend le plus profondément. Et puis quand on est en bas, on repart comme ça, et puis on continue en allant toujours, ça s'appelle un parcours en profondeur, parce qu'on va le plus loin possible. Donc ça, c'est une possibilité de parcours. Mais on aurait très bien pu imaginer de dire, je pars de zéro, puis je vais à celui-là, puis je remonte, je vais à celui-là, puis après, les deux premiers niveaux sont faits, donc je vais passer au deuxième niveau, donc je vais regarder ça, et puis après ça, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de parcours qui peuvent être faits, et par rapport à la question qui se posait tout à l'heure, que quelqu'un a évoquée, est-ce que ça va modifier la pédagogie d'hybrider une formation? J'ai l'impression qu'il faut prendre la question à l'envers. C'est est-ce que la réflexion et les choix pédagogiques, les choix didactiques qu'on va pouvoir faire vont conduire à des parcours qui vont être différents les uns des autres. Et donc, c'est plutôt dans ce sens-là, à mon avis, que la question se pose. Ce n'est pas parce qu'il y a une hybridation que tout d'un coup, il va y avoir une nouvelle forme pédagogique. Mais les formes pédagogiques et les choix pédagogiques, les choix didactiques qui vont être faits vont conduire à des parcours différents. C'est ce que je vais essayer de montrer en exemplifiant, en prenant des exemples ici. Alors, le premier exemple de parcours, c'est les fameuses sept étapes des parcours performance. Donc, on reprend, il y avait une entrée dans la formation, une sélection des contenus et formation des équipes, une auto-formation, co-formation, en présence à distance, production collective d'une situation pédagogique, mise en œuvre de la situation, retour réflexif et évaluation de la formation. Alors, quand on lit quand on lit ces sept étapes, évidemment, il y a une première étape et puis une dernière étape, et par conséquent, on a l'impression qu'il y a un canevas complètement linéaire. J'entre dans la formation, je fais régulièrement un certain nombre de choses et j'évalue la formation à la fin. Donc, on a l'impression d'avoir quelque chose d'excessivement prescriptif et qui débouche sur une linéarité. Alors après, si on le regarde plutôt, ces sept étapes, non pas peut-être en enlevant la première et la dernière étape, qui sont deux étapes d'ailleurs, à mon avis, un peu de nature différente par rapport aux autres étapes qui sont proposées, on peut avoir, si on le regarde non plus d'un point de vue prescriptif, mais plutôt comme un guide de réflexion, on retrouve les principes de formation que j'énonçais plus haut, c'est-à-dire le travail collaboratif, le travail entre pairs, la production de ressources, le test dans les classes, le retour réflexif sur ce qui a pu se passer. Et donc, il y a un type ce type de parcours qui peut privilégier ces aspects, de ces principes de retour réflexif, de travail entre pairs, etc. Alors j'ai mis que, si on regarde, c'est un petit peu l'idée de ce qui est appelé le connectivisme, c'est-à-dire que essayer de faire parcourir des nœuds d'information faire parcourir des nœuds d'information et puis arriver à relier ces nœuds d'information avec le travail entre pairs et le retour et les retours réflexifs sur les pratiques, etc. Et donc ça peut être relié à cet aspect-là. Un autre aspect, alors qu'on retrouve assez souvent, et justement dans les formations qui sont construites par des formateurs experts. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps d'idée de prendre la formation et de la plaquer sur la formation hybride. Et donc, une formation, ce qui arrive de façon première, c'est le déroulement dans le temps. Et donc, on va construire certains parcours ont été construits, hein, je le dis plutôt de cette manière-là, et il est possible de construire des parcours de cette manière-là sur une construction tout à fait chronologique, c'est-à-dire, là, vous voyez sur la droite de l'écran, c'est un menu d'un des parcours qui est sorti de cette formation de formateurs. Donc là, il y a un accueil, il y a un questionnaire 1, une première étape, une deuxième étape, un questionnaire intermédiaire, une troisième étape, une quatrième, etc. Et on va jusqu'au bout. Alors, c'est effectivement, il y a un côté qui est très proche de la préparation, de la façon dont on prépare des stages. Mais la difficulté, c'est évidemment une difficulté à transmettre à un autre formateur, puisque là, on voit bien qu'il y a une certaine habitude à travailler de cette manière-là. Et puis, a priori, quand on regarde, il y a peu ou pas de prise en compte des interactions entre les apprenants. Alors bon, après, il faut aller un petit peu plus dans les détails, mais on a une scénarisation qui est complètement linéaire. Mais en même temps, c'est le type de scénarisation qui peut être tout à fait intéressant lorsque le contenu de la formation est lié à un apprentissage d'une technique, ou ici en l'occurrence c'est l'apprentissage d'un logiciel particulier pour les élèves, donc dans le lycée technique ou le lycée professionnel, je ne me rappelle plus exactement, les élèves doivent savoir utiliser un logiciel particulier, et donc il faut que les enseignants sachent manipuler ce logiciel, et donc pour savoir le manipuler, il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer, et donc la construction du parcours et ensuite de la formation a été construite de cette manière-là. Donc il y a une certaine linéarité, c'est un exemple de construction. Un autre exemple, alors l'exemple sur lequel on a travaillé, c'est un exemple d'entrée par des questions. Alors, je vais détailler un petit peu parce que c'est l'entrée et c'est le parcours et c'est le type de parcours que nous avons utilisé dans la formation de formateurs. C'est-à-dire de faire une entrée qui est absolument pas linéaire cette fois-ci, mais d'entrée par des questions. Et puis en même temps, je vous propose les questions que l'on sait poser, puis ensuite que l'on a posé à nos formateurs stagiaires pour construire une formation hybride. Alors, vous pourrez voir si ces questions-là vous paraissent pertinentes, s'il en manque ou d'autres. Alors, les questions... Oui ? Oui, j'y viens. Je vais lire tout ça. Oui. Alors, les questions qu'on se pose, elles étaient autour de six pôles différents. Le premier pôle, c'était la présentation. Alors, quel type de présentation et pour qui ? Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur qui est qui dans une formation. Donc, comment, dans une formation, dans la création d'un parcours, comment faire en sorte que chacun se connaisse et chacun sache ce qu'il est dans cette formation. Donc, cette présentation, c'est à la fois la présentation des formateurs. Nous sommes un tel et un tel, et nous sommes là parce que, et puis voilà. Donc, comment on peut mettre en place cette présentation. Et puis, c'est aussi une formation des stagiaires eux-mêmes. Des formations des stagiaires eux-mêmes, parce que si on imagine, comme le montrait Patrick tout à l'heure dans son schéma, où il y a un temps à distance avant le temps en présentiel, il est peut-être préférable que les gens puissent commencer à se présenter avant de pouvoir travailler ensemble. Et donc, cette présentation, comment peut-elle être organisée? Donc, voilà, la première question sur laquelle on rentre, c'était la question du... Quels sont les types de présentations possibles? Pour qui va-t-on se présenter? Mais c'est une question. Vous voyez que cette question-là, elle n'est pas forcément la première question qu'on va se poser si on est en train de concevoir une formation. Elle peut venir bien après. Alors la deuxième question qui nous paraissait fondamentale, c'était tout ce qui tournait autour de la scénarisation. Et la question qui est posée, c'est comment concevoir, comment décrire et comment intégrer un scénario de formation à un parcours de performance. Voilà. Donc, évidemment, derrière cette question, eh bien, il y a tous les éléments de scénarisation. Qu'est-ce que c'est qu'une scénarisation? Comment on peut scénariser? Dans quel but? Comment ça fonctionne? Donc, tous les éléments que j'ai déjà un petit peu décrit, mais qui pourraient être approfondis dans cette partie-là. La troisième question, c'est tout ce qui a trait à l'accompagnement. Comment prendre en charge l'accompagnement des stagiaires? Comment organiser un tutorat? Est-ce que le tutorat, dans la formation que l'on est en train d'organiser, est indispensable? Cet accompagnement, il va se traduire de quelle manière pour les stagiaires de la formation? Comment on peut réfléchir, d'une façon générale, l'accompagnement des stagiaires? La quatrième question, qui est une question qui est plus d'ordre technique, comment implémenter le parcours de formation sur la plateforme, puisqu'on travaille, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des contraintes, et des contraintes qui étaient d'utiliser une plateforme particulière. Donc comment faire pour mettre en place le parcours qui aurait été pensé, réfléchi, discuté, comment le mettre en place effectivement sur la plateforme? Et puis la question suivante, eh bien, ça rejoint évidemment les principes que j'énonçais, c'est tout ce qui a trait aux interactions et à la collaboration. Quelles interactions prévoir et comment les mettre en œuvre au fur et à mesure de la formation. Et enfin, le dernier onglet, et donc la dernière question, parce qu'évidemment, chacune de ces questions va être l'occasion d'un travail particulier pour les stagiaires, c'est tout ce qui a trait au droit. Qu'a-t-on le droit de faire dans une formation hybride? Et donc, pour protéger à la fois les auteurs des ressources et puis les utilisateurs finaux de ces ressources. Donc voilà, cette entrée-là, c'est une entrée par des questions. On pose un certain nombre de questions qui nous paraissaient fondamentales pour la mise en place d'une formation hybride. Et alors, évidemment, on est ici plus... Tout à l'heure, on parlait de connectivisme. Ici, on est plus dans une formation, dans une perspective de pédagogie de projet. Et effectivement, la formation de formateurs a été construite pour que les formateurs puissent mener à bien leur projet de construction d'une formation. Alors, évidemment, il y a une prise en compte des interactions entre les participants, mais une difficulté, c'est qu'il y a un parcours qui est libre, puisqu'on peut rentrer dans ces formations par n'importe laquelle des questions qui paraît être intéressante. Et donc, il y a aussi, en termes de parcours, la nécessité de bien cadrer le déroulement temporel et comment ça va se passer. Donc, construire la temporalité de la formation qui sera mise en place à partir de ce parcours. Et puis, le dernier aspect... dans ce parcours assez libre et ouvert, eh bien, il y a évidemment la nécessité d'un accompagnement et d'un tutorat de façon à pouvoir suivre le parcours de chacun des stagiaires. Bon, voilà le cadre. Donc ça, c'est encore un type de parcours qui peut être utilisé dans une formation hybride. S'il y a des questions ou des interrogations, je vous dis, n'hésitez pas. Non, je n'ai pas dit on pourrait les enlever. C'est une erreur. Mais vas-y, je te laisse continuer. Les autres, peut-être un peu plus. Mais... ouais. Donc, je réponds. Enfin, je ne voulais pas dire que entrer dans la formation et évaluation de la formation étaient des choses à supprimer, mais je voulais dire simplement que la présentation telle qu'elle est faite ici, et si on commence, il y a 7 étapes. Donc, on a déjà un nombre et on a donc une étape 1, une étape 2, une étape 3. Et cet aspect-là d'étape 1, 2, 3 tend à faire... qu'on a l'impression qu'on est obligé de passer d'une façon linéaire par ces 7 étapes. Et si on regarde, à mon avis, alors évidemment, il y aura toujours une entrée dans la formation. Et cette entrée dans la formation, nous, on l'a, vous voyez, dans ce qu'on a proposé, nous, on n'a pas... bien sûr, il y avait une entrée dans la formation. Il y avait une présentation. Mais on problématise cette entrée dans la formation en disant, ben voilà, quels sont les moyens que l'on a dans une formation hybride pour arriver à faire cette entrée-là. Et donc, c'est une question. Mais cette question-là, elle n'est pas forcément première. Même si l'entrée, ben, le jour... il me semble qu'il faut bien distinguer les principes dans lesquels on va rentrer dans la formation et puis le déroulé temporel. Et le déroulé temporel, j'ai pas encore réussi à délinéariser le temps, mais bon, c'est peut-être dans une prochaine fois. Donc, mais effectivement, c'était plus dans ces 7 étapes. Moi, j'ai tendance à défendre les 7 étapes telles qu'elles sont là, parce que même si on voit bien tout le côté critiquable qu'il pouvait y avoir et tout vers quoi ça pourrait faire tendre, et qui n'est pas forcément ce que je pense intéressant. Mais en même temps, il y a derrière les 7 étapes beaucoup des principes qu'on reprend et qu'on a essayé de reprendre, nous, dans les formations qu'on faisait. Et donc, cette présentation telle qu'elle est faite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amène à faire ça dans l'ordre. Et ça, à mon avis, ce n'est pas la bonne idée. Bien sûr. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est le regarder plutôt comme un guide de réflexion plutôt que comme une prescription d'étapes temporelles qu'il faut passer. J'avance. Je vous propose un autre type de parcours qui est plus une entrée par des contenus et qui, cette fois-ci, va plus s'appuyer sur une pédagogie différenciée, c'est-à-dire en fonction des connaissances, en fonction des compétences des stagiaires, eh bien, il va y avoir la possibilité de travailler sur des contenus différents. Alors là encore, quand on a cette approche et qu'un parcours est construit de cette manière-là, sur une entrée par les contenus, eh bien, il y a une nécessité absolue d'une proposition d'un déroulement temporel, puisque sinon, on risque de tomber assez facilement sur un basculement vers une base de ressources, où on va avoir un certain nombre de ressources qui sont à disposition, et puis chacun pioche à l'intérieur. Et donc, on voit bien que si on veut construire la formation à partir de cette entrée-là, eh bien, il va y avoir une nécessité à un moment de proposer un déroulement temporel et de la formation effective. C'est aussi quelque chose où il y a une place importante de l'auto-formation. Si on rentre par des contenus et si on regarde, eh bien, ce sera à partir des compétences, des connaissances de chacun que le parcours va être construit. Et donc, l'auto-formation va être un des aspects importants de cette formation. Et puis, pour le formateur, eh bien, il va y avoir une nécessité d'évaluation et d'évaluation de l'endroit où en sont les stagiaires dans ces formations et pour les stagiaires eux-mêmes, d'auto-évaluation fréquente. Alors évidemment, tout ça réclame des interactions nombreuses entre formateurs et puis entre stagiaires également. Alors c'est un exemple qui a été construit sur des mathématiques, encore une fois. C'est l'algorithmique et de la programmation, mathématiques et informatique, et où les collègues qui ont mis en place cette formation rentrent par les contenus. L'algorithmique, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la complexité d'un algorithme ? Comment on va pouvoir travailler là-dessus ? Et évidemment, il y a nécessité, et c'est ce qui est sur la droite de l'écran, où on voit un accès direct sur cette partie-là. Eh bien, il y a des exercices d'auto-évaluation pour savoir si, effectivement, les contenus ont été compris, et des forums qui sont liés à cette partie-là. C'est-à-dire que si je suis en train de travailler sur la complexité, ben, je peux aller dans le forum et voir si d'autres collègues ont les mêmes difficultés ou poster des questions pour voir si d'autres collègues vont pouvoir me répondre sur le problème que je suis en train de me poser. Donc là, on est plus effectivement sur une pédagogie différenciée où le parcours de chacun des stagiaires va être construit par lui-même en fonction de ses connaissances et de ses compétences. Et puis le dernier exemple, dernier type, alors évidemment, j'ai pas fait quelque chose qui est exhaustif, hein, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est fait à partir de notre expérience, de ce qu'on a pu voir. Donc c'est un parcours, des parcours qui peuvent être construits à partir de jeux sérieux, c'est-à-dire sur un scénario de jeu. Et évidemment, il y a ce dont on parlait tout à l'heure, un intérêt à rentrer, parce qu'il y a une certaine envie de travailler de jouer à un jeu. Et il y a les deux aspects que j'ai notés d'évolution et appropriation, donc d'évolution de la part du formateur pour faire en sorte que le parcours de formation, la formation, ça soit des questions que le stagiaire se pose, et puis du côté du stagiaire qui s'approprie le jeu et qui rentre dans la démarche. Et évidemment, ici, il y a un rôle très important à la fois du tutorat et puis des interactions multiples, que ce soit les interactions entre les joueurs eux-mêmes. Si on imagine un scénario de jeu où on ne peut pas gagner sans la collaboration avec d'autres personnes, et puis des interactions avec le milieu au sens didactique, c'est-à-dire toutes les rétroactions qui vont pouvoir être portées sur chacune des actions qui vont être réalisées au cours du jeu. Alors là, c'est quelque chose qui est certainement difficile à mettre en œuvre dans une formation, parce qu'on a des scénarisations à géométrie variable en fonction des actions des joueurs. Chaque joueur va travailler d'une certaine manière, chaque équipe de joueurs va travailler d'une certaine manière, et donc va modifier au fur et à mesure le scénario. Donc c'est des scénarisations à géométrie variable. Je vous donne un exemple. Oui. Eh bien voilà. On est mal synchronisé, vous auriez dû lever le doigt une seconde avant. Alors c'est un exemple qui a été développé ici pour préparer la C2I2E et qui est un jeu sérieux qui s'appelle Tamagokur et qui qui a pour objet de travailler sur le droit lié aux documents qui sont téléchargeables sur le web. Et donc, le principe du jeu, c'est qu'il y a un petit Tamagotchi qu'on doit nourrir de ressources. Donc on nourrit le cours, on nourrit de ressources, et ces ressources sont à choisir dans une banque de données. Et évidemment, la ressource doit être donnée au Tamagotchi dans un cadre particulier. Donc je suis dans ma classe et je lis le texte. Est-ce que j'ai le droit de piquer tel Apollinaire, tiens, par exemple, puisque j'ai appris que maintenant il était passé dans le domaine public depuis hier, je crois. Oui, donc c'est d'actualité. Donc est-ce que j'ai le droit de lire le texte d'Apollinaire ? Est-ce que j'ai le droit d'en présenter sur des diapositives dans ma classe ? Est-ce que j'ai le droit de photocopier l'intégralité d'un texte d'Apollinaire et de le donner à mes élèves? Et donc, quels sont les droits? Alors évidemment, dans le jeu, en l'occurrence, le Tamagotchi va prospérer ou au contraire s'étioler en fonction des fautes qui auront été faites dans sa nourriture. Donc voilà, ça c'est une entrée. Alors, c'est une entrée. Alors, de travailler sur un parcours de formation, hein, qui est sur un scénario de jeu. Et alors, bon, je ne rentre pas complètement dans les détails, mais dans ce jeu, en fait, pour nourrir le Tamagotchi, il va falloir nécessairement une collaboration entre plusieurs, et donc une discussion. Et donc l'idée, c'est évidemment sur une ressource particulière, c'est de se poser les questions: est-ce que j'ai le droit, et qu'est-ce qui régit, qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai effectivement le droit dans ce contexte particulier de le donner, et donc bon, de rentrer dans la discussion, de rentrer dans la recherche d'informations, etc., et puis de nourrir d'une façon raisonner le Tamagotchi pour arriver à le mener à une vie longue, heureuse, avec beaucoup d'enfants, etc. Bon. Voilà, donc un exemple de... Alors, ce jeu sérieux, il est utilisé ici pour un travail avec les agrégatifs de l'école sur, justement, l'acquisition du C2I2E. Et donc, comment ? Je pense à la pendule. Bon, alors, je vais...
On ira manger à 11h45 impérativement.
Alors, j'ai 10 minutes pour vous dire deux mots concernant un travail qui est en cours sur la transposition métadidactique, qui est donc un cadre théorique d'appréhender la formation des enseignants et en particulier la formation des enseignants dans des situations d'hybridation. Alors, c'est ce qu'on rappelait, c'est Patrick l'a dit, moi je l'ai dit aussi, il y a des acteurs différents, des chercheurs, des formateurs et des enseignants qui travaillent dans un cadre institutionnel pour des formations. Et ce qu'on a remarqué, c'est que jusqu'à présent, les modèles théoriques qui étaient proposés étaient plutôt des modèles qui étaient statiques. Et nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est des modèles dynamiques qui prennent en compte les différentes communautés qui sont engagées dans les travaux, et puis l'influence institutionnelle. Alors, c'est un modèle qui est associé à la théorie anthropologique du didactique, donc de Chevallard, où précisément il y a deux aspects qui sont tout à fait importants dans cette théorie, qui est la dimension institutionnelle et puis la notion de praxéologie, donc praxéologie, ou qui se décompose en praxis, le savoir-faire, et puis le logos, les connaissances. Donc en gros, dans le praxis, on va regrouper l'ensemble des types de tâches et des tâches qui pourront être mises en construites et mises en avant pour les alors ça dépend à quel niveau on se place, si c'est pour dans une formation pour les enseignants stagiaires, si c'est dans la classe pour les élèves, et puis essayer de regarder la justification de ces tâches et des techniques qui sont conduites pour construire la tâche, ce que je vous disais tout à l'heure par exemple, pour regarder l'ordre de deux fractions, eh bien, il y a des techniques qui peuvent être mises en œuvre, mais ces techniques, elles ne sont pas suffisantes pour donner le sens, pour justifier du concept et de la façon dont elles ont été construites. Et donc, du côté des connaissances, du côté du logos, il y a le technologie au sens de techno-logos, donc le discours sur la technique, et donc un discours de justification des techniques, et puis qui s'appuie sur des théories dans une institution donnée. Donc Chevallard utilise la théorie anthropologique du didactique dans la classe, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de tirer et d'essayer de regarder comment cette théorie pouvait être utilisée à un niveau de la formation. Et donc, on regarde les praxéologies métadidactiques qui vont se développer dans les processus de formation des enseignants. Donc, à la fois les tâches et les techniques, les types de tâches et les techniques qui sont mises en place dans les formations, et puis les théories, les technologies et les théories, les discours qui vont pouvoir être mis en place pour justifier de ces tâches et techniques mises en place dans la formation. Donc, vraiment, ce qui est en jeu ici, c'est toute la pratique et les réflexions théoriques sur les activités de formation. Alors, les hypothèses de base, c'est que les formations ont pour faire, si on prend ce modèle, ont pour enjeu, une formation va avoir pour enjeu de modifier, de faire évoluer la praxéologie des formés dans un domaine donné et dans une institution donnée. Et du coup, on va être amené à confronter les différentes praxéologies qui sont les praxéologies des chercheurs, les praxéologies des enseignants et les praxéologies des formateurs. Et essayer de mettre en avant ces choses-là fait apparaître qu'il y a des rôles particuliers qui sont donnés. Alors, ce qui s'est appelé brokering, qui a été traduit en français par courtage, mais qui n'est pas forcément... C'est un peu le go-between, celui qui est capable à la fois de comprendre le côté pratique parce qu'il a un pied dans le terrain et la possibilité de discuter sur ce qui se passe effectivement dans la classe, et puis à la fois un côté de réflexion théorique, donc plutôt du côté du logos, réflexion théorique sur ce qui va se passer. Et le rôle important de ces brokers qui va être à la frontière de plusieurs communautés, et évidemment, quand on regarde en termes de formation, on voit bien que les formateurs d'enseignants sont des brokers par nature, si j'ose dire, parce qu'ils ont à la fois accès à ce qui se passe du côté de l'enseignement et à la fois accès à ce qui se passe du côté de la recherche. Donc le formateur en lien avec les deux communautés et qui va travailler avec des objets frontières. Et on arrive sur un schéma de la transposition où on a au départ des praxéologies différentes, à la fois là c'est marqué chercheurs et enseignants, mais on peut avoir les chercheurs, formateurs, etc. Et on a l'idée de, à travers les formations, de partager les praxéologies et de faire évoluer les praxéologies. Et donc, ce qu'on regarde, ce qu'on constate et ce qu'on observe quand on essaye de passer nos formations de formateurs au crible de ce cadre théorique, c'est que les praxéologies des enseignants vont être modifiées par la formation, mais ça c'est bien parce que c'était justement le but de la formation, mais c'est aussi les praxéologies des chercheurs chercheurs qui vont être modifiés par ce passage dans la formation. Et donc, on a une double dialectique qui se construit, dans lequel les brokers ont un rôle particulier et tout à fait fondamental à jouer. Alors, je rentre pas dans les détails, mais il y a évidemment des aspects de composants qui sont composants internes aux braxéologies, à la fois des chercheurs et des enseignants, parce que du fait de l'expérience, du fait de la vraie vie, si j'ose dire. Et puis, il y a aussi des choses qui apparaissent et qui apparaissent de l'extérieur, et en particulier ces choses qui apparaissent de l'extérieur, les composantes extérieures qui sont liées à tous les aspects d'introduction des artefacts ou des outils dans les formations de formateurs. Alors, c'est un travail qui est en cours. Je pourrais vous donner des premières références, puisqu'on a déjà écrit sur ces choses-là. Mais on continue, et en particulier cette année, on continue dans un séminaire franco-québécois à travailler sur la mise en place de ce cadre théorique.